commence là. In utero. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards de cellules. Nous avons connu l'origine de la vie et nous avons enfoui le souvenir de ces 9 mois passés in utero. Jamais je n'aurais imaginé que le développement de certains de nos organes est arborescent.
C'est quoi ça ?
Ça, c'est des impressions 3D de poumons embryonnaires humains.
C'est un poumon d'embryon, c'est magnifique. Ouais. Alors là, c'est réellement un corail, c'est un petit arbre.
Voilà. Ça sent du corail, et ça c'est 9 semaines.
Ouais.
Et ça, c'est 3 semaines plus tôt, à la même échelle.
Oh, le développement.
Voilà.
Et là, ça fait, c'est voilà, minuscule.
Ça, c'est 6 semaines.
6 semaines.
Et ça, c'est 9 semaines.
Donc ça, c'est comme si on avait une branche de corail.
Voilà, et après, c'est arborisé. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est quelles sont les règles qui contrôlent la formation de ces branches. Comment votre arbre dans les poumons va pousser? Comment les branches vont pousser différemment? Et puis, comment les angles vont se faire? Comment ça croît dans l'embryon? Et donc, comment on passe de ce petit truc-là à un poumon qui va faire une surface énorme?
C'est voilà. Fou quand même.
Oui, oui. Il y a comme ça plein d'organes dans le corps humain qui vont comme ça se développer en faisant des branches. Le poumon, la prostate, les glandes salivaires.
Ça fait des branches.
Ça commence par un petit truc qui bourgeonne et puis qui va en donner 2 bourgeons et puis qui va se brancher, etc. Donc on a plein d'organes branchés comme ça dans le corps.
D'arborescence.
Les glandes lacrymales qui partent d'un tube qui va se diviser 2 fois, 3 fois et puis va donner comme ça une structure. On en a plein la tête. Toute la surface de votre tête, il y a des... Vous produisez de la salive en continu, des sécrétions dans la tête, vous avez les glandes parotides, des glandes sous-linguales, les glandes lacrymales, des glandes... Il y en a partout qui sécrètent plein de trucs. Et tout ça, c'est pareil, ça commence par une petite cellule qui va donner un petit tube, qui va pousser dans la tête et puis qui va se diviser pour occuper l'espace.
Alain Chedotal m'a reçu à l'Institut de la Vision à Paris, neurobiologiste du développement, membre de l'Académie des sciences. Sur son bureau, autour de lui, il y a des livres d'embryologie, en français et en anglais, et des boîtes blanches contenant des modèles d'embryons en 3D. Alain Chedotal est un chercheur passionné par son sujet, généreux et soucieux de partager les dernières découvertes sur le développement de l'embryon avec le plus grand nombre. Il peut parler pendant des heures des migrations, des déplacements, ou encore de la mort des cellules.
Donc effectivement, il se passe plein de choses dans nos cerveaux, dans plein d'organes. Il y a comme ça des mouvements de cellules, des intercalations de cellules, des trucs qui se divisent tout le temps. Et puis, il y a aussi plein de morts.
Vous voulez dire des cellules qui meurent?
Des cellules qui meurent. Dans le cerveau, vous avez, dans certaines régions, la moitié des neurones qui vont mourir pendant le développement embryonnaire. Dans toutes les structures du cerveau, vous avez plus de cellules qui sont produites que ce qu'on va avoir dans le cerveau adulte. Et ça, c'est une mort développementale, normale, un processus normal, qui se produit chez tout le monde. On a perdu, dans le développement, la moitié de nos neurones, et ensuite, on n'en perd plus du tout, ou lentement, sauf s'il y avait des pathologies comme Alzheimer, Parkinson, etc., votre quota de neurones, il est fixe. Donc voilà, donc il y a plein de systèmes comme ça. Un exemple très intéressant aussi, ouais, de mort, c'est les doigts.
Palmés.
Les doigts palmés. Quand vos mains et vos pieds poussent...
C'est palmé, j'ai vu.
C'est palmé, on voit même pas les doigts. Vous avez en fait une...
Comme les grenouilles.
Une grenouille, ça dé... Non, c'est pire qu'une grenouille, parce qu'une grenouille, on voit comme ses doigts à un moment. Non, vous avez vraiment une palette, vous avez quelque chose de très rond, en fait, ça ressemble un peu à un disque.
Un moufle.
Voilà, un moufle sans pouce.
Ouais. C'est parce que j'ai vu les images.
Voilà. Donc vous avez des moufles aux pieds, des moufles aux mains, mais sans pouce. Voilà, vous avez oublié de tricoter le pouce. Et en gros, vos doigts, quand ils vont se former, il va y avoir une mort des cellules qui sont entre les doigts.
Ouais, d'accord.
Et c'est ça qui va donner la forme à la fin. Bon, bien sûr, il y a d'autres processus qui se passent, mais vous avez besoin qu'il y ait une mort des cellules qui va diviser votre moufle. Là, vous avez poussé entre les doigts et vous allez créer comme ça la forme de ces doigts-là. Ça, c'est vrai pour les pieds, c'est vrai pour les mains. Et ça c'est vraiment des molécules qui sont dans la palette, dans votre main en développement, qui vont envoyer des signaux qui vont faire en sorte que ça va déclencher comme ça une mort des cellules entre les doigts. Mais ça, on peut le décliner, encore une fois, sur plein de tissus. Il y a comme ça ces migrations, ces déplacements, cette mort de cellules. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très dynamique. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi de réussir à voir ça. Donc, il y a vraiment encore énormément de travail pour réussir à comprendre un peu tout ce qui se passe.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une recherche en cours.
C'est en cours et sans fin. Encore une fois, ça a commencé il y a 100 ans, donc ouais. Plus de 100 ans, même, on va dire 120 ans pratiquement. Mais les technologies actuelles, donc depuis, c'est vraiment le. Pendant jusqu'il y a à peu près 10 ans, il n'y avait pas eu vraiment de révolution technologique dans le domaine qui fait que, dans d'autres systèmes, oui, mais pas pour l'embryon humain, il n'y avait pas de technologie simple qui permettait d'améliorer la compréhension du développement de l'embryon humain. Et depuis 10 ans, même 5 ans, vous avez vraiment un boom de nouvelles technologies qui permettent vraiment de mieux connaître ce qui se passe chez l'embryon.
En 2017, Alain Chédotal a reçu le prix de la recherche INSERM. Son laboratoire a mis au point une technique qui révolutionne la manière d'étudier le développement de l'embryon humain. D'abord, les tissus de l'embryon sont rendus transparents à la lumière. L'anatomie de l'embryon devient alors translucide. On visualise la peau, les nerfs, les vaisseaux, les muscles. Ensuite, on utilise des anticorps fluorescents pour visualiser certaines cellules. Ces anticorps se fixent sur les protéines des cellules. Les cellules vont être alors taguées, elles vont s'illuminer sous l'action d'un laser. Aujourd'hui, cette technique permet de suivre l'évolution des cellules et des organes de l'embryon humain. Elle dévoile la complexité de l'embryon comme jamais auparavant. C'est grâce à cette technique qu'Alain Chédotal peut rendre visible notre bipotentialité. Qu'est-ce que ça veut dire, bipotentialité ? C'est très simple. Ça veut dire qu'à l'origine, nous sommes indéterminés. Ni homme, ni femme, nous pouvons devenir l'un ou l'autre jusqu'au 38e ou 39e jour de vie in utero.
Donc ce qu'on sait, donc, en règle générale, quand vous avez un chromosome X, un chromosome Y, vous serez, chez l'adulte, un homme, en général. Il y a des exceptions, mais globalement, c'est comme ça. Si vous êtes XX, le chromosome X, vous serez une femme, avec des ovaires, et, dans l'autre cas, un homme et des testicules. Voilà. Dans le développement embryonnaire, initialement, ces ovaires et ces testicules, chez l'homme et chez la femme, la structure qui leur donne naissance est absolument identique. Si vous regardez le système reproducteur d'un embryon qui est XX ou XY, vous êtes incapable de voir une différence. Que ça soit au niveau des organes génitaux ou au niveau de ce qui va plus tard donner les ovaires ou les testicules. C'est absolument identique.
Et l'utérus ?
L'utérus également. Il est présent chez les hommes également au départ. Donc tout est identique absolument. Et on dit même, donc, les testicules et les ovaires, c'est ce qu'on appelle également les gonades. Mmh. Ces ébauches de testicules et d'ovaires, on dit que c'est bipotentiel. Ça peut donner l'un ou l'autre, aucune différence. Et là, ce qu'on a pu voir en 3D, et c'est intéressant parce qu'il y a une personne qui travaille sur ça qui m'a dit qu'elle avait pleuré quand elle a vu nos images. Ouais. Ce qu'on a pu faire ici, c'est qu'on a utilisé un anticorps qui permet de visualiser tout le système reproducteur en développement chez l'embryon. Et là, on est un peu basique, on a coloré ce qui va rester chez un XX en rose et chez un garçon en bleu. Ce qu'on appelle les canaux de Müller et de Wolf.
D'accord. Müller pour les filles et Wolf pour les garçons.
Voilà. Et ça a été découvert à la fin du 19e siècle. Ça, ces structures-là, initialement, ça joue un rôle de très précocement dans le développement, ça remplace le rein. Ça filtre, en fait, les choses, ces structures-là. Et puis, vous avez une structure qui est à côté de ces systèmes de filtration, qui est cette structure qui va donner plus tard les gonades. Et au départ, dedans, il n'y a même pas de cellules qui vont être importantes pour la reproduction. Ces cellules, elles vont migrer à l'intérieur plus tard.
D'accord.
Donc vous avez en gros les futurs testicules, futurs ovaires, qui sont équivalents. Et en plus, il n'y a pas dedans les cellules germinales. Elles vont migrer depuis ailleurs pour rentrer dedans. Donc c'est quand même déjà... Donc encore une fois, les migrations, c'est quelque chose qui est particulier. Hein. Voilà. Donc là, je vais revenir en arrière.
Vous montrez un film.
Voilà, vous montrez un film, que ces films-là, ils sont sur Internet, on a un site où ils peuvent être regardés. Donc là, on est à peu près à 6 semaines et demie de développement embryonnaire. Cet embryon-là, encore une fois, il a les deux types de canaux. Il a les Müller, les Wolf. encore une fois, qu'il soit XXXY, ça se ressemblera exactement pareil. Et si vous regardez au cours du temps, voilà, si on vient deux semaines plus tard, vous voyez, chez un mâle, ce canal ici de Müller, il se fragmente. Vous voyez, il y a des trous maintenant. Il est en train de disparaître. Si maintenant, je prends un embryon de femelle, c'est le contraire. Vous voyez, ce truc rose, là, il reste. Et le bleu, il se fragmente, il disparaît petit à petit. Et l'utérus, c'est ça. Il est présent ici, au départ. Donc, en fait, cette structure-là, il y a un utérus chez l'homme qui va disparaître, se fragmenter, il ne va rester que ça. Et chez la femme, les trompes de Fallope vont se développer ici, vous allez avoir l'utérus, et puis tout ce qui était le conduit mâle va disparaître. En 2-3 semaines, vous êtes complètement changé. Et au niveau de ces gonades bipotentielles, de ce qui était testicule ovaire, on s'en fiche, il y a tout d'un coup quelque chose qui se passe avec, chez l'homme, un gène particulier qui est porté par chromosome Y, qui s'appelle SRY, qui va déclencher toute une cascade d'événements qui fait que vous allez avoir des testicules. Et chez la femme, ce gène-là, il n'est pas présent, et il va y avoir une autre cascade qui va se produire, qui va entraîner l'apparition d'ovaires. Et en plus, il va y avoir, chez l'homme, notamment, production d'une hormone par les testicules précoques, qui s'appelle l'hormone anti-mullérienne, qui va détruire, jouer un rôle dans la destruction du canal de Müller.
Qui est donc le canal de féminin.
Féminin qui va disparaître.
Mais l'utérus va disparaître, ça va disparaître, ça.
Oui, tout va être désintégré.
Chez le garçon.
Il y a une mort de ces cellules, encore une fois.
C'est ça.
Ce que je dis, c'est
disparition.
C'est quelque chose qui est constant. Pour remodeler les tissus, vous les déformez, vous faites migrer les cellules, vous faites glisser les cellules sur les unes sur les autres, ou alors vous faites des trous, vous enlevez des choses.
À l'écoute d'Alain Chédotal, je comprends que tout est en mouvement, tout est mouvant, et c'est pour cela que c'est si complexe de comprendre le développement d'un embryon et la formation de ses organes.
Le but d'un projet européen qu'on avait, c'est de comprendre, d'essayer d'utiliser cette technique moderne, celle-ci et d'autres, quels sont tous les éléments moléculaires et cellulaires qui se produisent quand on passe de quelque chose de bipotentiel identique à quelque chose de complètement différencié. C'est quoi vraiment la cascade d'événements, les premières indications qu'on va vers une voie ou vers une autre, et qu'est-ce qui peut vraiment se passer en utilisant toutes ces approches-là, et notamment cette imagerie 3D est très utile pour comprendre ce genre de choses. On utilise des logiciels qui permettent de vous faire, à partir d'une image biologique, un squelette dans lequel on va pouvoir maintenant compter combien il y a de branches, combien il y a d'endroits où ça branche, essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est mis en place et comment c'est structuré. Donc à partir d'images 3D, on a vraiment une possibilité d'avoir une idée de la complexité d'un organe ou d'une structure comme ça, très vascularisée. Voilà, donc on va faire ça, encore une fois, là où il y a encore un mâle, une femelle, il n'y a pas, incapable de dire qui est quoi, hein, simplement sur la base de la morphologie, de la taille, quoi que ce soit, c'est absolument identique.
Alain Chédotal a d'abord étudié les cellules qui migrent du nez vers le cerveau. Puis, il s'est dit que c'était dommage de n'étudier que cette population de cellules, alors qu'avec cette nouvelle technologie, on peut voir tout le corps de l'embryon humain. C'est comme cela qu'il a commencé à construire le premier atlas cellulaire en 3D du développement embryonnaire humain. Avec son équipe de recherche et de nombreux collaborateurs, il reconstitue en 3D les données générées grâce à cette technologie révolutionnaire. Cet atlas, c'est le début d'une grande aventure scientifique, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les cellules, parce qu'on ne sait pas retracer leurs histoires. On ne sait pas non plus combien de cellules il y a dans le corps humain, ni combien de types de cellules différents. C'est un travail qui prendra plusieurs années pour des chercheurs du monde entier.
Combien y a de cellules dans un embryon humain ? J'en sais rien. Personne ne le sait.
Et ça, c'est ce que vous voulez faire, un atlas cellulaire.
Alors, il y a une grosse initiative internationale qui n'a pas été trop médiatisée pour l'instant, qu'on appelle l'atlas cellulaire humain, le Human Cell Atlas. C'est financé par personne en particulier et par diverses institutions. Et c'est un projet qui est vraiment international. Il y a des laboratoires aux États-Unis, au Canada, dans plein de pays. Et tous ces laboratoires-là, ils essaient vraiment d'utiliser des technologies modernes pour essayer de répondre à des questions toutes simples, hein, que ce soit chez l'adulte ou chez l'embryon. Il y a combien de cellules ? Et puis, il y a combien de types cellulaires ? Je dis, il y a des neurones, mais combien y a de types de neurones différents chez l'homme dans le développement? Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas.
Attendez. Oui. Question. Les cellules du foie, oui. Il y a plusieurs types de cellules du foie?
Ah oui, bien sûr.
Il n'y a pas une cellule, parce qu'au départ, quand les cellules vont se spécialiser, moi je pensais qu'elles se spécialisaient, ben celle-là, elle va devenir une cellule de foie, celle-là, elle va devenir une cellule de jambe, je sais pas, de vaisseau, de...
Ah, si, ça se passe comme ça, sauf que vous n'avez pas qu'un seul type de cellule de foie.
C'est ça.
Vous avez pas mal, heureusement. non, vous avez plusieurs types de cellules. Dans chaque organe, vous avez une diversité de types cellulaires. Par exemple, vous allez avoir des cellules ne serait-ce que vasculaires qui vont apporter le sang, qui sont différentes, qui vont rentrer dans les organes pour les vasculariser. Vous allez avoir des nerfs qui vont rentrer dans les organes pour les innerver. Vous allez avoir des cellules immunitaires qui vont migrer dans les organes pour avoir une réponse immunitaire. Et puis, au sein des tissus, vous avez plein de types cellulaires différents. Mais la diversité de ces types cellulaires n'était pas forcément hyper bien connue. On savait qu'il y a des différences, bien sûr. Mais l'étendue de cette palette de cellules, la composition des organes, n'était pas forcément très bien connue. Et maintenant, il y a des techniques modernes qui permettent de vraiment connaître exactement la diversité des types cellulaires. Combien il y a de types de cellules dans n'importe quel organe? Et ça, vous pouvez le faire chez l'adulte, c'est très bien. Mais si vous voulez comprendre le développement, les cellules qui étaient là dans le développement, qu'on donnait ces cellules couvées chez l'adulte, elles ne sont plus présentes chez un adulte.
Non, c'est ça.
Donc vous pourrez dire, si vous prenez simplement
Pourquoi elles sont plus présentes?
Parce qu'elles sont transformées en autre chose.
Parce qu'elle se transforme.
Alors elle se transforme. C'est-à-dire
parce que chez l'embryon, par exemple, ma cellule de foie va se transformer en autre chose.
Vous ressemblez plus à un œuf fécondé.
non.
Donc forcément, il y a eu une transformation.
Cela m'a bien amusé de m'imaginer en œuf fécondé, même si sur le moment je me suis sentie un tantinet ridicule. Mais Alain Chédotal est un bon pédagogue. Il ne se moque pas de mes questions. Il y répond.
Jusqu'à un certain stade de développement, une cellule de l'embryon peut donner tout l'embryon.
C'est-à-dire elles sont omnipotentes?
Alors, elles sont totipotentes.
Totipotentes.
Tout le potentiel de donner toutes les cellules d'un embryon. Et puis, donc, ces cellules, ce qu'elles font, c'est qu'on voit bien, quand vous avez un spermatozoïde, un ovocyte, il va y avoir une cellule au départ, la cellule œuf, qui va se diviser, donner 2, puis 4, etc. Et puis, continue à se diviser, et ça, Jean-Léon vous en a parlé. Et elles vont petit à petit se spécialiser et en même temps perdent du coup un peu de leur capacité. Vous ne pouvez plus remplacer l'une par l'autre. Et donc ces cellules, quand elles se divisent, vous avez ce qu'on appelle donc des cellules qui sont à la base de tous ces organes, vous avez donc ce qu'on appelle, on entend souvent ce terme-là, des cellules souches. Et ces cellules-là, elles ont au départ la capacité de donner plein de cellules d'un tissu particulier. Et donc la cellule, à chaque fois, ce qu'elle fait, c'est que, bien sûr, il y a une croissance, on la voit très bien sur ces impressions 3D, on voit bien que la taille grossit. La taille grossit, c'est parce qu'il y a de plus en plus de cellules. Mm-hmm. Donc là, le nombre de cellules augmente. Mm-hmm. Donc vous avez besoin de diviser les cellules, de les reproduire. Et ça, c'est constant. Mais ce qui se passe aussi, c'est que vous allez dans différents organes, vous allez avoir un événement, qu'on ne comprend pas forcément, qui va commencer à changer les propriétés de certaines cellules. En gros, les filles sont identiques à la mère. Et puis au bout d'un moment, les cellules filles vont être différentes de la mère. Donc ces cellules vont, comme ça, petit à petit, il faut imaginer, elles vont donner des naissances à des cellules filles, puis la mère va disparaître. Puis les filles vont donner naissance à des cellules filles, puis les filles aussi vont disparaître. Et donc si vous voulez comprendre d'où on vient, il faut que vous puissiez remonter à la cellule mère dans un organe particulier. Si on veut comprendre comment le foie s'est mis en place, comment le poumon va se mettre en place, il faut qu'on trouve la première indication que là on avait un poumon, on commençait à se développer. C'était quoi la cellule mère? C'était quoi ses caractéristiques?
Et ça, on ne le sait pas?
Non.
Pour que je comprenne mieux ce qu'il me dit, Alain Chédotal a pris l'exemple des poumons de l'embryon. Il me montre sur son ordinateur des images de leur développement. Les poumons ressemblent à du corail, ce sont des architectures arborescentes.
Beaucoup d'organes poussent de manière effectivement branchée. Donc ça c'est un exemple, ça c'est un poumon humain à 5 semaines, et on voit ces deux premiers bourgeons qui se mettent en place. Vous avez vraiment
les deux branches
qui vont sortir comme ça de votre œsophage, et puis ils vont former deux branches comme ça, une à droite, une à gauche. Et ça va par l'extrémité se diviser. Et donc ça, vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est le type d'analyse qu'on est obligé de faire pour arriver d'une image brute, ce que vous avez vu, à arriver, en fait ce qu'on veut créer là, c'est un arbre phylogénétique, veut dire quel est le... votre grand-mère, arrière-arrière-grand-mère était là, ça a donné tout ça, ces divisions, chaque division, c'est... Ouais.
Quelle est l'arrière-grand-mère du poumon, quoi.
Et comment on peut reconstituer le nombre de divisions de chaque branche, à quel âge c'était, quels étaient les angles de ces divisions-là. Et donc ça nécessite d'avoir des données 3D qui soient précises.
Mais là, je comprends. Quand vous me montrez un arbre généalogique...
Oui. Et surtout, c'est connecté.
L'ancêtre, quoi.
Oui, parce que c'est connecté. Ça, l'avantage d'un organe comme ça, et beaucoup d'organes branchés, c'est qu'il y a un premier moment, il y a quelque chose qui apparaît, une branche qui se forme, puis une autre branche. Et donc, si on sait que plus on est proche de l'extrémité, enfin de la surface, plus on est récent, et on peut comme ça revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, c'est un organe où tout est connecté. Il y a des tubes, il y a des canaux, il n'y a pas eu de déplacement de ces cellules. Donc on est capable, heureusement, elles sont nées à un endroit.
Elles y sont restées pour les poumons.
Voilà, c'est resté là, et donc on peut retracer l'histoire en remontant jusqu'à la place initiale.
Oui, en fait, c'est ça, vous faites de la généalogie d'organes.
On fait absolument ça. Et vous voyez, et ça, pour le poumon, il y a ça dans plein d'organes différents.
Si Alain Chédotal veut faire un atlas en 3D du développement de l'embryon humain, c'est aussi parce que cela va permettre de comprendre certaines pathologies et anomalies du développement, et peut-être même, à terme, de reconstituer certaines cellules ou même certains organes.
Il y a donc un chercheur japonais, Yamanaka, qui a obtenu le prix Nobel il y a quelques années, qui a montré qu'il pouvait prendre des cellules de la peau chez un adulte, et puis il va modifier quelques gènes, et ces cellules de la peau, en rajoutant quelques gènes dedans qui n'étaient plus présents, il va les faire revenir en arrière. Il va les rajeunir et les faire revenir à un état fondamental, si on peut dire, à un état où on va être capable de proliférer et donner n'importe quoi. Et donc ce qu'il a montré, simplement prenez les cellules de la peau, vous rajoutez ces molécules dedans, ces quelques gènes, 4 gènes uniquement, et là, elles deviennent capables de créer un individu entier.
Entier ?
Entier, oui, oui, vous pouvez créer une souris entière à partir d'une cellule de la peau. Pas pour rien qu'il ait le prix Nobel, hein, c'est quand même une découverte vraiment, vraiment majeure. Hein. Non, il était, c'est quand même vraiment très impressionnant, il était postdoc en même temps que moi. Et ça, il l'a fait il y a plus de 10 ans, donc non, chapeau. Et ça, c'est intéressant vraiment pour modéliser des maladies du développement. Encore une fois, on ne peut pas accéder facilement à des prélèvements humains. Et du coup, là, vous prenez celui de la peau, ça peut être aussi des cellules qui sont dans la vessie, qu'on récupère, dans l'urine, ça suffit. On va leur rajouter les gènes, on va faire un petit cocktail, une petite sauce avec ça, les cellules vont pouvoir se diviser, et puis, en rajoutant différentes molécules, on va les faire orienter vers telle et telle voie de différenciation. Maintenant, il y a des gens qui ont fait ça, vraiment, c'est la cuisine, vous prenez les cellules, vous rajoutez, tiens, je vais rajouter ça, et elle va donner plutôt un neurone, je vais rajouter ça, elle va donner plutôt du foie. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Hein.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'avec une cellule d'un organe, on peut reconstituer toutes les cellules qu'on avait à l'origine.
Tout.
C'est ça ?
Voilà. Ce qu'on a du mal encore à faire, ça commence à se faire, c'est les cellules de la reproduction, les gamètes.
Ah.
Ce qui serait important pour les personnes qui ont des problèmes de reproduction, avec de stérilité, où vous n'avez pas assez de spermatozoïdes, si on pouvait leur prendre des cellules de la peau, en fait, les spermatozoïdes, ils se reproduisent. Ça, c'est pas encore très au point. En revanche, on est capable de produire des cellules de l'œil, de la rétine. Donc en gros, l'idée, c'est que vous avez ces cellules que vous avez prises dans la peau. Elles vont être capables de donner n'importe quel organe. Mais on a besoin de savoir si cet organe il est normal et est-ce que la séquence de développement aussi est normale. Donc si vous ne savez pas comment un organe s'est développé dans un embryon in situ, de dire « Ah, regardez, ça ressemble à un cerveau, c'est ce qu'on appelle les organoïdes, ça va ressembler à un petit cerveau dans une boîte. » Et les gens vont dire « Ah, ça c'est miraculeux, on va pouvoir peut-être transplanter ça, isoler des cellules et faire ce qu'on veut avec. » C'est très bien, sauf qu'on ne sait pas vraiment si ces cellules-là sont complètement normales ou pas. Vous avez besoin de savoir exactement c'est quoi le développement, par quoi on est passé là, est-ce que la séquence de développement était la même, ou est-ce que vous avez chinté une partie, qu'en gros vous avez un truc qui ressemble, mais qui n'est pas exactement pareil. Et du coup, si on vous le transplante, ça sera quoi les conséquences à long terme? Donc, si on comprend bien toutes les phases du développement, exactement par quoi sont passées les cellules au cours du développement, on pourra dire, ah ben non, votre organoïde, là, il n'est pas forcément parfait, la recette, ça ressemble à la fin à un cake, là, mais c'est pas le bon. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette référence, cet atlas de référence qui va devenir, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le développement, c'est comme ça que sont les cellules chez l'adulte, et comment on peut faire en sorte, si on veut faire réparer des organes, de le faire. Mais ça vous montre un peu le potentiel de ce genre de travaux-là.
Mais là, vous parlez d'immortalité. Ça veut dire qu'à terme, on pourra remplacer tous nos organes ?
Non. il y aura toujours le même. Le problème principal, c'est que vous n'arrivez jamais à remplacer, c'est le cerveau. Pour l'instant, ça reste le problème. Et heureusement, certains organes, effectivement, probablement le foie, pancréas, pas mal de choses pourraient être remplacées. Par contre, vous auriez du mal à remplacer un cerveau complet et certaines structures, ça va quand même être compliqué. Mais ça ouvre quand même à tout un tas de voies. Et ça, c'est des travaux récents en biologie du développement, chez l'homme et dans d'autres espèces, toutes ces découvertes qui ont une dizaine d'années, qui vont changer complètement cette façon de voir les choses. L'intérêt aussi de ça et l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de problème éthique puisque vous ne partez pas de cellules embryonnaires.
Je n'oublierai pas cette rencontre avec Alain chez Dotal. Jamais je n'aurais imaginé que nos cellules peuvent remonter le temps. Dans l'épisode suivant d'In Utero, nous serons avec l'échographiste François Farge. Il sera question d'un embryon qui se balance et d'un fœtus qui joue au ballon, et tout ça in utero. In Utero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier et réalisé par Flora Bernard. In Utero est un podcast original de France Inter.